Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h. Nous ouvrons ce premier conseil municipal de la mandature. Je suis très heureux de retrouver tous les élus que j'ai salué individuellement et que je salue collectivement. Nous avons ce soir un pouvoir. Donc Michel Bizassia donne son pouvoir à Christian Servant et on a Nadia Aloul qui arrive des États-Unis, qui sera là normalement dans 10 minutes. Voilà. Donc on l'intégrera quand elle arrivera au sein du conseil municipal. Son avion a été retardé. Voilà, tout d'abord, je voulais nommer un secrétaire de séance à la personne de Jean-Baptiste Laurendon, s'il l'accepte. Merci. Vous dire quelques mots d'introduction. Donc, on s'est réunis pour l'installation de ce conseil municipal le 21 mars dernier. Comme je l'ai dit au cours de mon installation, je souhaite que nos débats se poursuivent dans un climat de respect et d'exemplarité. Tout à l'heure, on vous parlera d'une charte déontologique qu'on proposera de signer à tous les élus. L'idée, en fait, et je l'ai annoncé, ça sera de rassembler tout l'ensemble des conseillers municipaux et de travailler dans d'excellentes conditions, bien entendu, en respect vis-à-vis de l'opposition et une réciprocité entre les différents groupes. Voilà, alors il n'y a pas d'approbation du procès-verbal de la séance précédente, puisque ce n'était pas réellement un procès-verbal. Par contre, on entérine en fait l'installation du conseil municipal qui a lieu donc le 21 mars dernier à 10h. Merci au public qui est venu nombreux aussi. Voilà, je n'avais pas l'habitude qu'il y ait autant de monde. Il y a 6 ans, il n'y avait pas autant de monde au conseil municipal. Donc c'est aussi que la démocratie mounarde vit plutôt bien. Donc on peut s'en féliciter. Voilà, alors les premières décisions qui sont à prendre sont des décisions d'administration générale. Donc on a un certain nombre de décisions à prendre et je vais commencer donc par la première qui sont les délégations qui sont accordées au maire donc au terme de l'article 2122 alinéa 22 du Code général des collectivités territoriales. Je voudrais au préambule aussi rappeler que le conseil municipal est soumis à un règlement intérieur qui a été donc délibéré le 14 septembre 2020 et qui donnera lieu donc à une prochaine délibération certainement lors du prochain conseil municipal. Donc qui règle en fait, le fonctionnement de ce conseil municipal, vous pouvez bien entendu en avoir connaissance en nous demandant auprès de notre directeur général des services, que je remercie, Frédéric Billon. Voilà, donc cette première décision, c'est de son délégation, donc qui sont octroyées au maire. C'est une tradition de ces premiers conseils municipaux de la mandature où on donne quelques pouvoirs au maire. Alors, vous avez dû vous dire qu'elles étaient numérotées de 1 à 29, pardon. Et en fait, c'est pas une numérotation aussi stricte. C'est surtout qu'on reprend les différents alinéas. C'est pour ça qu'on saute de 1 à 3. L'alinéa 2 n'a pas été retenu en termes de délégation. Auparavant, donc sur la présente mandature, il y avait 31 délégations. Il n'y en a plus que maintenant. Un petit peu moins, 29. Et donc, je vais vous en donner pas la lecture complète, mais voilà, c'est dans le cadre d'une bonne administration communale. Le conseil municipal peut décider, donc pendant la durée du mandat, de confier donc au maire certaines délégations. La première, ça concerne l'affectation des propriétés communales, donc utilisées par les services publics municipaux. La troisième alinéa, c'est de pouvoir en fait réaliser des emprunts à hauteur donc maximum de 1,5 million d'euros. Donc c'est un montant unitaire ou annuel. La quatrième alinéa, c'est concernant tout ce qui est les marchés publics, donc notamment les accords cadres et également les avenants. Donc c'est dans la limite de 216 000 euros hors taxes pour les marchés de fourniture et de services. Et pour les marchés de travaux, c'est beaucoup plus important, puisque c'est 5 404 000 euros hors taxes. Ensuite, nous avons la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas de 12 ans. Donc là, c'est la capacité au maire de pouvoir engager des locations, de pouvoir donc les décider et les conclure. Ensuite, ça concerne également les contrats d'assurance et les indemnités de sinistre qui est affaire à ces contrats d'assurance. Le septième alinéa, ça concerne les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, donc aussi bien de créer, de modifier ou de supprimer. La huitième, ça concerne les cimetières, puisque les pouvoirs du maire sont liés aussi aux cimetières, donc c'est la délivrance et la reprise des concessions, notamment. La neuvième, c'est d'accepter les dons et legs qui peuvent être faits à la commune. La dixième, c'est de décider d'aliéner de gré à gré donc des biens mobiliers dans une limite de 4 600 €. La onzième, c'est de fixer les rémunérations et de régler les frais honoraires des avocats, notaires, huissiers, de justice experts que la commune aurait besoin. La douzième, c'est de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, donc services fiscaux concernant les domaines, c'est le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés de répondre à leurs demandes. Du droit d'expropriation. Pour la 13e, c'est de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, donc au niveau des écoles. La 14e, c'est de fixer les reprises d'alignement et application d'un document d'urbanisme, en application d'un document d'urbanisme. La 15e, c'est d'exercer dans la commune les droits de préemption, qui sont donc définis par le code de l'urbanisme, et de déléguer donc l'exercice de ces droits à l'occasion de l'alignation d'un bien. Donc c'est suivant des articles 211 alinéa 2 et 213 alinéa 3 du même code. Donc c'est pour les opérations qui n'excèdent pas 500 000 €. La 16e, c'est d'intenter au nom de la commune des actions en justice, comme ça peut arriver, et de défendre donc la commune dans ses actions et de transiger donc avec éventuellement les parties opposées dans la limite de 1 000 €. Donc c'est une délégation qui est consentie tant en défense qu'au niveau devant toutes les juridictions et destée également en justice. Voilà. Donc en défense, c'est devant toutes les juridictions, y compris l'appel et la cassation. Et en demande, c'est devant toutes les juridictions également. Et dans toutes les communes, dans tous les cas où la commune est amenée à se constituer par civil, aussi devant les juridictions pénales, ça peut arriver. Donc cette délégation est étendue à l'ensemble des domaines de compétences, actuels ou futurs, mis à la charge des communes. Le 17e, c'est de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels nos employés municipaux et nos véhicules municipaux peuvent être impliqués, donc bien entendu en respectant les contrats d'assurance de la commune. La 18e, c'est de donner l'avis en matière d'urbanisme, notamment dans le cadre d'établissements publics fonciers locales comme Epora, par exemple, qui viendra à travailler sur la commune. La 19e, c'est de signer donc une convention qui est prévue par un alinéa 311, alinéa 4 du Code de l'urbanisme, donc qui concerne le coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer donc une convention qui est prévue donc également par le même code. Ensuite, la 20e, c'est de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum à 500 000 € par année civile. Voilà. La 22e, c'est d'exercer au nom de la commune le droit de priorité. C'est dans la limite de 500 000 €. La 23e, c'est de prendre des décisions relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie, un peu plus préventif, qui est prescrit notamment par les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. La 24e, c'est d'autoriser donc la commune au renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. La 28e, c'est d'exercer donc au nom de la commune également la protection des occupants des locaux à usage d'habitation. Et enfin, la 29e, c'est d'organiser donc la participation du public par voie électronique, donc qui est prévue par l'article 123, alinéa 19 du Code de l'environnement. Voilà, donc 29 délégations qui sont octroyées au maire. Et donc, il va falloir les voter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions auparavant par rapport à ces différents actes, soit de gestion, de délibération, de préemption, de contraction aussi de crédit? Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, on va voter à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté et je vous en remercie à l'unanimité. Alors, nous allons avoir ce soir pas mal de délibérations qui concernent donc des désignations de membres dans les différents organismes de la commune, les régies municipales, mais également, on va commencer par le CCAS. L'idée, c'est de désigner en fait des membres au conseil d'administration du CCAS. Le CCAS, comme vous le savez, donc, assure une action sociale auprès des familles de la commune. Le nombre de conseils des membres du conseil d'administration, donc dans un centre communal en général, ça, c'est 8 membres. Donc il y a 4 membres nommés, donc qui est nommé par le maire, et 4 membres qui sont élus. C'est un minimum. L'idée donc ce soir, c'est de vous proposer donc de nommer d'une part, quatre personnes plus le maire qui est de droit et 4 membres élus. Et après, concernant les 4 membres nommés, il faut les sélectionner parmi les différentes associations qui doivent siéger dans ce CAS. Donc il y a tout d'abord les représentants des familles, donc l'UDAF. Donc on a été approché par l'UDAF qui souhaite bien entendu siéger donc au sein de notre CCAS. Ensuite, il y a toutes les associations qui représentent le handicap, les personnes porteuses de handicap. Ensuite, nous avons les personnes qui travaillent aussi pour l'insertion et contre l'exclusion. Et puis, enfin, c'est les associations qui représentent les personnes âgées. Voilà. Ce que je proposerai donc ce soir, donc, c'est de proposer donc à l'opposition d'avoir un siège, si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, à ce moment-là, il y a une autre solution, c'est qu'on puisse vous présenter peut-être une liste.
En ce qui nous concerne, la première proposition nous convient parfaitement.
Donc, on va proposer donc qui chez vous alors ?
Moi. Ouais.
Très bien. Donc, Clément Robillard, merci. Et au niveau de Christian Servant ?
Donc, c'est un siège pour l'opposition, même si on est deux oppositions. Donc, c'est Clément Robillard.
Si, c'était un siège par groupe. Donc.
Ah bon, alors, ça sera moi, alors, à ce moment-là. Mais peu que c'était un pour l'opposition.
Alors, au niveau de notre équipe, donc je vous propose donc Blandine Descaux, Jean-Luc Puvel, Gania Yaha et Émilie Guizani. Voilà. Bon, est-ce que vous acceptez en fait qu'on puisse voter cette liste à main levée ? Je vous en remercie. Sachant que le maire donc, fait partie de droit en fait de ce conseil. De CCAS, et donc je vous propose donc de voter qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc merci, c'est adopté à l'unanimité. Moins une voix, puisqu'en fait Nadia Aloul n'a pas encore intégré le conseil municipal. C'est là ? Tu peux te saluer ? Je t'ai pas vu arriver ? Ben oui. T'as pas fait le bruit. Hein. Bon, donc on a le plaisir d'accueillir Nadia Aloul qui arrive de très loin. Merci. Voilà, on va poursuivre donc nos décisions. Alors, il s'agit maintenant d'une commission importante en fait qui fixe les règles en matière d'impôts directs. Donc, c'est une commission communale donc qui est obligatoire dans les communes de plus de 2000 habitants. Et en général, donc il y a 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. On doit néanmoins choisir 16 titulaires et 16 suppléants qui seront ensuite choisis par notre organisme de tutelle pour pouvoir en fait siéger ensuite dans une commission communale des impôts directs qui se réunit une à deux fois par an. Ça dépend les années. Donc c'est les impôts qui viennent, donc qui nous mandatent un représentant de chez eux et qui vient organiser en fait ces commissions qui permettent en fait d'avoir une révision des différentes propriétés, alors pas toutes, hein, mais suivant si elles ont été modifiées sous forme d'autorisation de travaux ou permis de construire, mais également toutes les nouvelles constructions qu'il peut y avoir ou les changements de destination. Enfin, il y a tout un tas d'actes au niveau urbanisme qui doivent donner lieu donc à une nouvelle étude par rapport à, d'une part, la qualité du bien, sa destination. Donc, ça peut être également, par exemple, la construction d'une piscine, ces choses comme ça. Et ensuite, on fixe en fait des coefficients qui permettent ensuite de déterminer des niveaux d'imposition. Voilà. Alors, là aussi, je veux proposer d'ouvrir à l'opposition deux titulaires, deux suppléants, si vous en êtes d'accord. Clément Robillard.
Moi, Vincent Goyer se porte volontaire pour être titulaire, et moi, je me porte volontaire pour être suppléant. Qu'on peut peut-être se compléter avec un groupe d'opposition.
Oui, donc Claude Bruno comme titulaire et Christian Servant comme suppléant.
Merci. Alors, il faut que, donc au-delà des élus, il faut qu'il y ait aussi des habitants qui soient représentés. Donc, on a contacté en fait certains habitants qui figuraient déjà sur la liste précédente. Donc, on n'a pas eu tous les retours aujourd'hui. Mais je peux vous donner quelques noms quand même au niveau des habitants qui ont été contactés. Donc il y a Joël Carniel, Gérard Ribéron, Alain Clavaron, Martine Metz, José Léon, Jean-Louis Poncet et Pierre Apic. Donc ils faisaient partie de notre équipe. Et puis on y rajoute en fait des gens qui siègent dans cette précédente commission et qui ont été contactés tout récemment par les services. On n'a pas encore tous les retours. Concernant les élus de l'équipe municipale, donc nous aurons Cédric Sperandio, Jean-Baptiste Laurendon, Blandine Descaux, Geneviève Royon, Xavier Lecoeur, Yves Bonneville, Thierry Druen, Pierre Perrin et Philippe Chessac. Et donc le maire siège en qualité de représentant de la commune également. Voilà. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est pour les élus, donc je vais les redonner. Donc, en tant que titulaire, donc, nous avons Claude Bruno, Vincent Goyet, Xavier Lecoeur, Thierry Druen, Philippe Chessac, Blandine Descaux, Yves Bonneville et Pierre Perrin. Donc ça doit faire 8. Et en tant que suppléant, donc, Cédric Sperandio, Jean-Baptiste Laurendon, Geneviève Royon, Clément Robillard, Christian Servant, et j'ai dû en oublier, je pense. Jean-Baptiste Laurendon, ouais. C'est bon ? Ouais. Voilà. Juste 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Voilà, donc je vous propose de voter en fait ces suppléants et ces titulaires donc, en matière d'élus. On va voter à main levée, hein, encore une fois, je vous en remercie. Donc qui est contre ? Qui s'abstient, qui est pour, donc c'est adopté à l'unanimité aussi. Merci à vous. Nous poursuivons donc avec le conseil d'administration du NEC. Le NEC, c'est le nouvel espace culturel. Donc c'est notre salle de spectacle qui joue d'une réputation, on va dire, historique, hein, qui existe depuis très très longtemps maintenant. Et en fait, le statut de cette salle de spectacle, c'est une régie personnalisée. C'est-à-dire que c'est pas directement la mairie, donc elle a un conseil d'administration en tant que tel, et donc on doit choisir des élus, mais également des habitants, parmi les habitants, en fait, des membres du conseil d'administration. Donc on vous propose ce soir de choisir 6 membres du conseil municipal et 5 habitants de Saint-Priest-en-Jarret qui représentent donc la vie culturelle et la vie associative. Les membres du conseil d'administration donc, sont nommés pour un premier mandat, ça dure 3 ans. Ils sont éventuellement renouvelés donc, en cours de mandat au bout de 3 ans. par le conseil municipal. Donc on aura l'occasion, peut-être dans 3 ans, à revoter pour ce conseil d'administration. Le dernier conseil d'administration qui a été élu, c'était le 9 mai 2023. Et donc aujourd'hui, il convient de procéder donc à son renouvellement. Donc contrairement à ce que j'ai pu indiquer à Clément Robillard, à Christian Servant hier par mail, puisque vous m'aviez posé la question, vous avez possibilité de présenter une liste, même si elle est incomplète. Donc c'est la question que je voulais vous poser. Sinon, bon, la solution que je vous avais proposée, en fait, c'est parmi vous six, en fait, de proposer un membre d'opposition.
Christian Servant se porte candidat avec notre assentiment.
Très bien. Merci. Donc, les élus que je souhaite proposer donc, au niveau du conseil d'administration sont Nadia Aloul, qui est donc adjoint à la culture, Geneviève Royon, Thierry Druen, Irène Perrard et Valérie Heurtier. Plus donc Christian Servant. Au niveau des habitants donc, qui représentent en fait la vie culturelle et associative, je proposerai donc les candidatures de Gwenaël Monnier, d'Irène Faure, de Jean-Pierre Picolin, de Florence Michel et de Joël Carniel. Voilà, donc ça fait 6 membres élus et 5 habitants. Voilà, donc je vous propose de mettre cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc je vous remercie, c'est encore adapté à l'unanimité. Et je vous en remercie. C'est juste simplement pour rappeler que le NEC, c'est 841 abonnés cette année. C'est 6547 places vendues. Et c'est 5 agents donc, qui travaillent au NEC. Et c'est un budget à peu près de 130 000 euros à l'année. Voilà. On va poursuivre. Alors, autre délibération qui concerne cette fois-ci le comité social territorial. Donc c'est une instance consultative où s'exerce notamment le droit à la participation des fonctionnaires territoriaux pour les conditions de travail et notamment tout ce qui est organisation du travail. Donc nous avons à désigner ce soir 5 titulaires et 5 suppléants. Là encore, je proposerai donc à l'opposition de nommer un suppléant et un titulaire.
Je me propose comme titulaire.
Et donc, je prendrai la suppléance.
Donc, Christian Servant en suppléance et Clément Robillard en titulaire. Et donc, j'y rajouterai donc, en titulaire Cédric Sperandiou, donc qui est lié aux finances, Jean-Baptiste Laurendon, conseiller municipal délégué aux ressources humaines, Xavier Lecoeur et Aurore Tessier. Et en suppléant, donc Blandine Desco en tant que première adjointe, Audrey Voirin, qui est conseiller municipal délégué aux écoles, Albert Azoubel, qui est adjoint à la sécurité, et Isabelle Michaud, qui est adjoint à la communication. Voilà, donc je vous propose de mettre ces 10 personnes, donc 5 suppléants et 5 titulaires, au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. Alors, une autre désignation de délégué, cette fois-ci sera moins compliquée puisque nous avons droit à un seul délégué, c'est au sein du conseil d'administration du CDAT, le Centre d'aide par le travail, qui est présidé par Georges Gigler et qui comporte un certain nombre d'élus, notamment du conseil départemental, puisque le CDAT, c'est la tutelle, c'est le conseil départemental. Vous savez que le CDAT sur notre commune a un historique très important avec une construction dans les années 70. Donc au même endroit qu'il existe encore aujourd'hui où la cantine scolaire est installée depuis quelques années, mais c'est également la blanchisserie, c'est également le centre d'aide technique, on va dire, un atelier technique, une sous-traitance industrielle qui se trouve rue Jean Zay. C'est également les espaces verts donc, qui doivent se trouver à la Bargette en face du complexe sportif. Voilà, donc c'est le lieu, la commune de Saint-Prié est le lieu vraiment historique du CDAT, on est très content de les avoir. La directrice aujourd'hui s'appelle Céline Berrion, et donc c'est quelqu'un que je ne connais pas encore, puisqu'il n'y a pas très, très longtemps qu'elle est arrivée. Mais nous avons eu le grand plaisir, il y a quelques années, donc, de construire ensemble avec le CDAT, en fait, de voir naître en fait, ce restaurant, l'arbre escalier, pardon, merci. et en plus de pouvoir envoyer en fait nos élèves, puisque aujourd'hui il y a notre cantine scolaire qui se trouve là-bas, que j'ai visité, revisité il n'y a pas très longtemps, c'était lundi, il y a une dizaine de jours, et qui a l'air de fonctionner plus globalement plutôt très bien, avec une assiduité des enfants. C'est plutôt une très bonne chose, même s'il y a encore des choses à améliorer, puisque nos enfants en fait sont souvent pas forcément tout à fait d'accord avec les menus, mais bon, il y a des choses à encore améliorer. Voilà, ce que je vous propose en fait, c'est de nommer donc un représentant donc, qui siégera au conseil d'administration du CDAT. Je vais vous proposer Blandine Descaux. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je vous propose de passer aux voix. Donc, qui est pour la candidature de Blandine, qui est contre la candidature de Blandine Descaux? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, merci, c'est adopté à l'unanimité. Je passe la parole maintenant à Jean-Baptiste Laurendon, qui va nous parler donc du comité d'action sociale. Donc, là aussi, il faut qu'on désigne un délégué.
Alors, en effet, le comité d'action sociale. Pardon, je me suis perdu dans mes notes.
CNAS. Le comité national d'action sociale. Toi, tu étais sur le COS. C'est de ma faute. Non, mais je suis... ouais. On débute. Désolé. Je voulais voir si tu suivais, en fait. Alors, le comité d'action nationale d'action sociale, donc en fait, c'est un organisme paritaire donc, et pluraliste donc, qui a été créé il y a très longtemps, en 67. Le but, c'est d'améliorer les conditions matérielles et morales du personnel communal. Il faut qu'on désigne un délégué pour qu'il puisse siéger auprès donc des différentes collectivités et également donc de siéger au niveau départemental de façon annuelle. Et l'idée, c'est qu'en fait, on propose justement Jean-Baptiste Laurendon, qui est l'élu donc aux ressources humaines. C'est pour ça que voilà. Je voulais te donner la parole. Donc l'objectif, c'est qu'il nous représente auprès de cette organisation. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, je vous propose de mettre aux voix. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, c'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Donc toutes les communes, notamment des communes de notre taille, nous avons donc des commissions consultatives qui sont des commissions qui sont ouvertes bien entendu aux élus, mais qui sont également ouvertes aux habitants, personnes qualifiées ou pas d'ailleurs, enfin des personnes volontaires qui s'intéressent à la vie communale. Il y a 8 commissions qui étaient, il y a en fait 7 commissions qui existait déjà sur la commune. Donc il y avait la commission éducation, petite enfance et jeunesse, la commission finance, la commission urbanisme, la commission culture et événements, la commission sécurité et circulation, la commission vie associative et sportive, la commission vie économique. On souhaiterait donc y ajouter donc une commission développement durable, qui sera une commission transversale, bien entendu, avec toutes les autres commissions, puisque on estime que le développement durable doit être approprié en fait partout, par toutes les démarches qui peuvent être faites au niveau de la mairie. On vous proposera aussi cette nouvelle commission pour aller dans le prolongement de ce qu'on avait pu faire avant d'être élu. On avait signé une charte éco-citoyenne, donc où il y avait quelques engagements qui avaient été pris. Donc ces engagements ils pourront être présentés en commission de développement durable. L'idée, c'est que ces commissions, la totalité de ces commissions, elle regroupe une quinzaine, voire une vingtaine de personnes, qu'on désigne une quinzaine ou une vingtaine de personnes, puisqu'en fait, après, c'est vrai que quand on les réunit, il y a souvent des gens qui ne sont pas disponibles et qui ne peuvent pas venir. L'idée, c'est qu'on ne se retrouve pas à 4 ou 5. La bonne nouvelle, c'est qu'on a sollicité un grand nombre de personnes qui étaient déjà dans les anciennes commissions, mais on en a rajouté d'autres. Et c'est vrai qu'il y a eu j'allais dire un engouement assez important et on a eu des retours assez positifs pour participer à ces commissions. C'est là aussi un bon signal qu'on donne par rapport à la vie démocratique puisque les habitants s'intéressent aussi aux affaires de la commune. Ces commissions vont se réunir deux fois par an. L'objectif, c'est qu'elles se réunissent deux fois par an. Par exemple, pour la commission finance, c'est important qu'on puisse y présenter le budget, ce qu'on appelle le budget primitif, et ensuite le budget supplémentaire. Donc, ça se fait en deux temps. Mais pour les autres commissions aussi, c'est bien qu'on ait un rendez-vous biannuel qui nous permette de faire les points sur les différents sujets. Les sujets qui sont évoqués dans ces commissions sont bien entendu proposés par les élus en place, mais également par des questions que la population peut nous poser ou des problématiques que la population peut nous poser. Voilà un peu ce que je voulais vous proposer. Donc, elles sont ouvertes, bien entendu, à tout le monde. J'ai eu une question écrite de la part de Clément Robillard et de Christian Servant qui m'ont dit qu'ils voulaient bien participer à ces commissions. Vous m'avez proposé donc une personne. Moi, j'étais encore un peu plus loin parce que je vous ai dit deux à trois personnes. Parce que bon, quand on est une quinzaine, c'est vrai, se retrouver tout seul, voilà, c'est aussi bien que vous puissiez venir à plusieurs. Et donc, bien entendu, vous êtes les bienvenus. Et puis bon, j'ai invité aussi tous les élus, hein, tous les conseillers municipaux de nous faire des propositions. Donc les propositions sont en cours. Là, je dois avoir à peu près, pas loin de 60 personnes qui sont susceptibles de participer à ces commissions-là. Donc ce que je proposerai, en fait, c'est que vous me fassiez une proposition par rapport aux personnes qui veulent participer à ces commissions en indiquant laquelle. Et à ce moment-là, on complétera les commissions avec les habitants, avec les personnes qualifiées, pour qu'on puisse les entériner lors du prochain conseil municipal dans un mois. Puisque le temps entre le 21 mars et aujourd'hui, tous les gens n'ont pas répondu. Et voilà, je trouve que c'est important aussi de prendre un peu plus de temps plutôt que d'aller faire des choses un peu précipitées. Voilà. Alors, Clément Robillard.
Est-ce que vous voulez que je vous donne les noms de...
Si vous les avez, sinon...
Bien sûr, je les ai. Alors, je vais profiter de votre générosité, on sera plus qu'un par commission. Commission éducation, Catherine Vasille et moi-même. Aux finances, Vincent Goyet et moi-même. À l'urbanisme, de nouveau, Vincent Goyet et moi-même. Culture et événements, Vincent Goyet, il va travailler, et Catherine Vasille. Sécurité et circulation, Vincent Goyet et moi-même. Vie associative et sportive, Catherine Vasille et moi-même. Vie économique, Catherine Vasille et moi-même. Et développement durable, Catherine Vasille, Vincent Goyet et moi-même, si possible.
Je voulais ajouter aussi, parce que là, vous l'avez fait par rapport aux élus. Vous pouvez aussi nous proposer en fait quelques personnes.
Oui, alors on complétera effectivement les commissions dans lesquelles nous sommes que deux. Je vous enverrai ça. Merci beaucoup.
Et sincèrement.
Oui, donc comme Clément Robillard, pour les habitants, on vous sollicitera ultérieurement. Pour la commission éducation, Claude Bruno. Finances, Christian Servant. Urbanisme, Christian Servant. Culture et événements, Claude Bruno. Sécurité et circulation, Christian Servant. Vie associative et sportive, Claude Bruno. Et j'y associerai, mais je vous le notifierai plus tard, Mireille Papin. Commission vie économique, Christian Servant. Et commission développement durable, Christian Servant. Mais là aussi, j'aurai d'autres personnes à vous proposer.
Merci. Donc, je crois qu'il n'y a pas de vote, hein, Frédéric. Donc, bien entendu, on a tout noté. Hein. Donc, c'est bien entendu d'accord. Et donc, viendront se rajouter donc, les élus suivant leur délégation et également leurs appétences. L'idée aussi, c'est que voilà, on se répartisse sur les commissions, qu'on ne soit pas dans toutes les commissions. C'est vrai que ça peut être assez lourd, mais c'est important que chacun soit sur son domaine d'intervention. Voilà. C'est des commissions consultatives, hein, donc il n'y a pas de décision qui est prise, mais ça peut, après, sur certaines propositions qui pourraient être faites, on pourra entériner ensuite en conseil municipal, après, avec décision du conseil municipal. Voilà, ben je vous remercie. On vous les communiquera donc complète le prochain conseil municipal qui doit avoir lieu le 6 mai. C'est ça ? Merci à vous. Alors, qu'est-ce qui nous reste ? On va tout de suite vous proposer la charte déontologique, c'est ça ? Donc, c'est la parole à Blandine Lescaut.
Donc, je vais vous présenter la charte déontologique des élus. Donc, au-delà des obligations fixées par la loi, cette charte est le code de conduite que notre conseil municipal choisit de se donner. Elle est le socle de notre engagement envers les habitants de la commune. Donc, être élu, c'est avant tout accepter un devoir d'exemplarité. À travers ce texte, nous nous engageons individuellement, mais aussi collectivement, à agir avec une rigueur absolue. Donc, en refusant tout avantage personnel ou familial, en garantissant une transparence totale sur nos missions et nos moyens, et surtout en plaçant l'intérêt général au cœur de chacune de nos décisions. Cette charte n'est pas une simple formalité, elle valorise le respect de la parole de chacun, que l'on siège dans la majorité ou dans l'opposition. Elle nous oblige également à la transparence avec la présentation d'un bilan annuel de nos actions. Donc signer cette charte, c'est promettre à nos concitoyens une gestion intègre, démocratique et respectueuse des valeurs républicaines. C'est ainsi que nous construirons ensemble un espace de débat public sain et durable. Donc, je ne vous ai pas lu la charte, mais je pense que vous l'avez lue en amont. Et voilà, donc on vous propose de la signer et, si vous en êtes d'accord.
Merci Blandine. Alors, pourquoi une charte, vous allez me dire, parce qu'on veut aller au-delà du guide de l'élu, là, que vous avez dû tous recevoir quand vous avez été élu. Bon, l'idée, c'est de voilà, mettre une coloration de Saint-Priest-en-Jarret. Ça donne quelques responsabilités et c'est notre rôle d'élu, quelques engagements. Et donc, au nom du conseil municipal, moi, je voulais la proposer à tous les élus, si vous êtes d'accord. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette charte. Christian Servant.
Oui, cette charte, pour nous, c'est un symbole, mais qui est formel, parce que la déontologie et la morale, on la doit d'abord à nos électeurs. Et quand on s'engage, en particulier sur une collectivité comme une commune, je pense qu'on n'a pas besoin de prouver autre chose. Je l'avais signé en 2014, peut-être un peu naïvement, puisque j'arrivais. Je n'ai pas vu vraiment la plus-value que ça apportait sur une mandature. Et puis, il y a une chose qui me gêne dans sa formulation, je le lis. En cas de non-respect de la charte ou de l'esprit s'y rapportant, je devrais rendre des comptes auprès du Conseil des adjoints. Je ne sais pas trop ce que c'est. Les sanctions prises pourront aller jusqu'au retrait du mandat qui m'est confié. Certainement pas. Le retrait du mandat, il ne peut être effectué que par la puissance publique. Le mandat, on le reçoit des électeurs et pas d'un conseil municipal. On peut retirer une délégation accordée par le maire, mais certainement pas un mandat. Donc, en ce qui nous concerne, nous ne signerons pas la charte.
Merci beaucoup. De notre côté, nous ne signerons pas la charte non plus pour deux raisons. La première, c'est que nous considérons que le respect des engagements éthiques, de transparence et d'intérêt général ne nécessite pas de signer un document, puisque on considère que c'est inhérent à la fonction de l'élu. Et la seconde raison, c'est que à la lecture de cette charte, on considère que c'est en réalité un document qui s'adresse à la majorité municipale. Nous sommes l'opposition, puisqu'il est fait référence ici à un projet, à la mise en exécution et à la mise en œuvre d'un projet. Et ça n'aura échappé à personne que nous n'avions pas tout à fait le même projet pendant la campagne. Voilà, donc c'est les deux raisons qui nous amènent à ne pas signer la charte.
Est-ce qu'il y a des élus de la majorité qui veulent prendre la parole ? Bon, donc on a pris note que les deux groupes d'opposition ne signeront pas la charte et on la signera. Tout à l'heure, certainement, après le conseil municipal. En tout cas, merci pour vos réactions. Je ne suis pas sûr qu'en 2014, on ait signé la charte. Mais bon, je ne vais pas trop m'avancer. Elle n'a pas été signée parce que tout le monde n'était pas d'accord pour la signer. Ensuite, on a une autre délibération qui concerne les indemnités des fonctions d'élus. Donc, on est en début de mandature. Donc, il convient de fixer une enveloppe pour les indemnités des élus. Donc il y a bien entendu des conditions très strictes là-dessus. Il y a tout d'abord les indemnités de fonction du maire. Donc elles sont réglementées par le Code général des collectivités territoriales. Et donc pour une commune de notre strate de population, le montant des indemnités pour l'exercice de fonction du maire est voté en conseil municipal et est fixé par référence à un montant du traitement qui correspond à l'indice brut terminal de, l'échelle incidiaire de la, indiciaire pardon, de la fonction publique. Donc en fait, l'indice, il est de 4110 euros. Et donc dans notre commune, donc, on est en 3500 et 9999 habitants, l'indemnité maximum est chiffrée à 58,30 de l'indice brut terminal, ce qui fait donc un montant de 2396,43 euros brut. Voilà. Donc je vous proposerai ce soir en fait de diminuer donc ce montant d'indemnité qui est à 2396 de 25% pour le fixer à 1800 euros. Concernant les indemnités de fonction aux adjoints de maire. Donc là aussi, on a indexé par rapport à l'indice brut terminal donc de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Alors c'est suivant le nombre d'adjoints en fait que l'enveloppe en fait est déterminée. Et en tout cas pour les adjoints, elle ne doit pas dépasser donc 23,32% du fameux indice qui est de 4110 euros. Et donc, il est fixé à un maximum de 958,57 euros brut. Ensuite, nous avons les conseillers municipaux qui ont reçu délégation. Donc, ils sont au nombre de deux, la personne d'Audrey Voirin et de Jean-Baptiste Laurendon. Donc là, ces indemnités ne peuvent pas dépasser les indemnités maximum qui sont allouées au maire de la commune. Ce qu'on vous demande ce soir, donc, c'est de fixer ce montant des indemnités. Donc le montant de l'enveloppe globale qui est lié donc, à cet indice a été fixé par rapport au nombre d'adjoints à 10 065,03. C'est un montant mensuel. Et donc le calcul il tient compte en fait de l'indemnité du maire de 2396,43. On y rajoute donc les 8 adjoints qui ont été nommés. On multiplie les 8 par 958,57 qui est la maximum. Et on trouve un montant, donc, comme je vous l'ai donné, de 10 065. Donc pour vous donner donc les chiffres exacts, plutôt que de raisonner en pourcentage, donc pour le maire, donc je vous propose de donner 1 800 euros. Pour notre première adjointe, donc le maximum à 958,57. Et ensuite les adjoints donc de 2 à 8 donc percevront 800 euros. Et enfin, les conseillers municipaux délégués donc toucheront la somme de 400 euros. Voilà ce que vous propose ce soir. Il restera donc sur l'enveloppe globale de 10 000 et quelques euros, 900 euros qui ne seront pas utilisés pour l'instant et qui permettront peut-être à terme de nommer éventuellement d'autres conseillers municipaux délégués. Voilà, en tout cas, on n'utilise pas l'enveloppe totale, on laisse 900 euros de côté. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant de passer au vote ? Christian Servant.
Oui, bon, je ne veux pas basculer dans la nostalgie inappropriée. Vous utilisez, comme le texte le prévoit, l'indemnisation des élus, ce qui est tout à fait légitime. Je constate quand même, c'est une petite parenthèse que je fais, qu'en 2020, on a été modeste et particulièrement économe, puisque en ce qui me concerne, ça fait aujourd'hui un écart de 740 euros, et pour la première adjointe, un écart de 270 euros, mais c'était notre choix de l'époque, on l'a assumé dans un souci d'économie de gestion. Aujourd'hui, avec ce que vous allez nous proposer, multiplié par 12 mois, c'est un surcoût pour le budget et pour les coûts de fonctionnement d'environ 22 000 euros par an, dont acte. Mais il me semble qu'à un moment où beaucoup s'interrogent, en particulier sur les problématiques économiques et de pouvoir d'achat, ça me semble un petit peu déplacé. C'est la vie qu'on a et c'est pour ça qu'on ne votera pas ces indemnités.
Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par dire que nous ne remettons évidemment pas en question la légitimité des indemnités qui sont attribuées à chacun des élus de la majorité, parce que vous avez tous consacré du temps à la commune et c'est tout à fait normal que vous perceviez cette indemnité. Notre opposition et notre inquiétude portent sur l'augmentation de l'enveloppe globale de l'indemnité et des indemnités qui sont proposées ce soir, puisque ça représente une augmentation substantielle du montant total qui intervient dans un contexte budgétaire très contraint. Je crois que nous avons tous été d'accord pendant la campagne ces derniers mois pour considérer et relever que la situation financière de la commune était, alors peut-être pas préoccupante, mais en tout cas qui amenait à nous poser un certain nombre de questions. Voilà, donc première raison. Et deuxième raison, je considère que c'est un signal envoyé aux habitants qui n'est, à mon sens, pas le bon. Je prends l'exemple de Saint-Étienne, où l'une des premières décisions a été de réduire considérablement le montant de l'indemnité du maire. Là, à Saint-Priest-en-Jarez, c'est l'exact inverse, raison pour laquelle nous nous opposons à cette délibération.
Merci pour vos positions. Simplement rectifier plusieurs choses. Première chose, à Saint-Étienne, le maire a diminué donc son indemnité de 15%, mais c'est lié à l'enveloppe. Moi, je l'ai diminué de 25%. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors, j'ai un petit peu de vécu à la mairie de Saint-Priest. C'est vrai qu'entre 2008 et 2020, mon indemnité avait été fixée à 1 000 euros. Pourquoi elle a été fixée à 1 000 euros? Il y a plusieurs raisons. Première raison, quand on a pris en fait la mairie, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc il a fallu, je l'ai raconté plusieurs fois lors des réunions publiques, il a fallu prendre des mesures en fait draconiennes en matière de finances, puisqu'il y avait un déficit à l'époque de plus de 560 000 euros. Ce qui a fait que, symboliquement, c'est vrai qu'on a, on a décidé en fait de diminuer de façon draconienne en fait les indemnités du maire, mais également des adjoints. Et je tiens d'ailleurs à féliciter Christian Servan qui a continué dans cette voie-là. Aujourd'hui, il faut pas se cacher que, bon, sans faire forcément la démagogie, que, en fait, voilà, c'est un investissement qui est très important au niveau des élus qui sont autour de moi, que je souhaite qu'ils aient aussi. Bon, c'est un sacrifice que certains vont faire sur leur activité professionnelle. Aujourd'hui, on a fait le tour un peu de toutes les communes, en fait, peut-être pas toutes les communes de cette métropole, mais il s'avère qu'il y a très peu de maires qui ne prennent pas l'enveloppe globale, alors que là, vous pouvez noter, donc, entre l'enveloppe du maire qui diminue de 25%, la rémunération du maire qui diminue de 25% par rapport à ce qui est prévu, faut savoir qu'en 2000, entre 2001 et 2008, le maire prenait 2300 et quelques euros. Hein. À l'époque, voilà, c'était, voilà, et moi, j'avais souhaité diminuer mes indemnités à ce moment-là. Voilà, et c'est vrai qu'on a fait le tour des communes. C'est vrai que, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de maires qui ne prennent pas l'ensemble de la. Et c'est à la limite. Voilà, moi, je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à ça. Et j'espère qu'en tout cas, les indemnités qui seront versées iront vers des gens qui seront hyper motivés et qui seront investis à 150% pour la commune. En tout cas, comptez sur moi pour être investi également à fond. Et je vous propose donc de voter si vous n'avez pas d'autres questions. De voter donc ces indemnités. Qui est contre? Donc 5 voix contre, 6 voix, puisqu'il y a le pouvoir de Michel Bisaccia. Qui s'abstient? Qui est pour? Donc je vous remercie, c'est adopté à la majorité. Ensuite, donc là, je vais passer la parole à Jean-Baptiste Laurent. Donc.
Cette fois-ci, j'ai préparé ma prise de parole. Alors, il convient ce soir d'approuver le versement d'une subvention pour le COS. Le COS est une association, comité d'œuvre sociale, qui intervient dans le champ de l'accompagnement pour les agents municipaux. Le COS regroupe aujourd'hui 128 adhérents. L'ensemble des agents ne sont pas nécessairement adhérents. Et un montant de cotisation annuelle est fixé à 50 euros pour ces agents. Et donc, l'objet, on va dire, du COS, c'est d'intervenir en faveur des agents municipaux pour des actions en matière de convivialité, des soirées d'animation, des voyages voilà, qui sont organisés, mais également d'autres missions, comme celle de l'attribution de cadeaux lors d'événements de vie, par exemple, d'organisation de ventes de produits variés tout au long de l'année. Ou encore les médailles pour les retraites, pour les départs en retraite notamment. Voilà, donc le montant de la subvention qui est proposée est de 25 500 euros et il convient évidemment d'avoir une convention au-delà de 23 000 euros. Donc le montant de cette subvention est identique aux années précédentes. Et on a fait le choix de pouvoir perdurer cette allocation de subvention puisque le COS organise un voyage au mois de mai sur 2 jours et donc c'est un voyage qui a été provisionné dès l'année dernière, c'est un voyage qui a lieu tous les 2 ans, donc c'est la raison pour laquelle on vous soumet au vote ce soir cette subvention.
Vous avez des questions? Donc c'est une subvention, oui, qu'on vote habituellement chaque année. Je crois qu'il n'y a pas d'augmentation, mais tu l'as peut-être dit. Voilà, donc comme il y a une petite urgence, et on vous informe juste qu'on votera donc les prochaines subventions donc lors du prochain conseil municipal qui aura lieu le 6 mai. Pas de questions. Je vous propose de passer cette délibération et cette convention au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Nous avons fini donc l'ordre du jour de notre conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions? Juste vous signaler, donc le prochain, je l'ai dit deux fois, mais conseil municipal aura lieu le 6 mai dans cette même salle à 20h. Au mois de juin, donc on aura un conseil municipal le 3 juin, le mercredi, toujours à 20h. Et puis le dernier conseil municipal avant les vacances aura lieu le mercredi 1er juillet à 20h dans cette même salle. Pas de prise de parole, pas de questions. Christian Servant.
Donc simplement un problème pratique, est-ce que ce qu'on peut prévoir, c'est que les conseils auront lieu le mercredi? Ou est-ce que c'est simplement les premiers conseils pour lancer la machinerie de la mandature?
Alors, c'est une bonne question à laquelle on a réfléchi. Pour l'instant, donc, on a ciblé les mercredis, puisqu'on avait fait un peu le tour de notre équipe. Alors, je sais qu'il y a un petit souci le mercredi, parce qu'il y a, un membre de notre équipe qui va à la chorale. Donc, il nous en a fait la remarque. On va voir, on prend note, et voilà. C'était le lundi auparavant, la tradition. On a un petit sujet le lundi avec un adjoint. Donc on va voir si on peut peut-être le fixer au mardi, si ça vous arrange. Je ne sais pas. Mardi, ça va aller à tout le monde? Pas Thierry? Ah, pas le mardi. On en discute et puis on vous fera un retour. Mais on a noté que le mercredi, c'était quand même la chorale. Et la chorale à Saint-Priest, c'est quand même important. Ouais, Xavier. 19h30? D'accord. Bon. Eh bien, je vous propose de lever la séance. Je vous remercie encore d'être venus nombreux et merci à tous les conseillers municipaux, adjoints, d'avoir participé à ce premier conseil municipal de cette mandature. Bonne soirée.